France Inter. Secret d'info. Mathieu Aron.
Septembre dernier, dans un avion qui le ramène à Rome, le pape François condamne fermement les prêtres pédophiles et ceux qui les protègent.
C'est un sacrilège. C'est trahir sa vocation, l'appel de Dieu. C'est quelque chose de très grave pour l'Église aujourd'hui. Et personne ne doit couvrir de tels actes. Ceux qui les couvrent sont aussi coupables.
Personne ne doit couvrir des actes de pédophilie, c'est un sacrilège. Des paroles très fortes, très fermes du pape François prononcées en septembre dernier. Bonsoir Laetitia Saavedra.
Bonsoir Mathieu.
Depuis cette déclaration, l'Église de France est confrontée à plusieurs scandales. Et l'affaire la plus emblématique, c'est bien sûr celle du cardinal Barbarin, qui est visé par une enquête pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur des mineurs. Et Laetitia, pour Secret d'info, vous avez eu accès à la correspondance qu'une victime a entretenue avec le cardinal durant plus d'un an, une correspondance très troublante, car elle montre comment Monseigneur Barbarin a tenté, disons-le, d'étouffer l'affaire.
Alors pour bien resituer le contexte, je vous propose, Mathieu, de réécouter ce que disait le cardinal Barbarin le 15 mars dernier, en plein scandale.
Jamais, jamais, jamais je n'ai couvert le moindre acte de pédophilie. Vous voyez, nommer un prêtre, ça ne veut pas dire couvrir les faits délictueux d'un prêtre. Couvrir les péchés, les drames, les crimes d'un prêtre, jamais.
Alors cette déclaration est quelque peu mise à mal quand on plonge dans la correspondance que le cardinal a entretenue avec Alexandre Dussault. Il a 42 ans, il est issu de la bourgeoisie catholique de Sainte-Foy-lès-Lyon et entre 9 et 12 ans, il a été agressé sexuellement par le père Prénat, prêtre de cette paroisse et fondateur du groupe de scouts Saint-Luc. Avec deux autres anciens scouts, il a créé une association de victimes, La Parole Libérée. Les faits sont prescrits, mais Alexandre s'en souvient comme si c'était hier.
Les samedis après-midi, quand on était en réunion de scouts, généralement, il m'emmenait dans un local photo qui était à côté de l'église. Et donc là, il se serrait contre moi et il passait sa main sous mon short et sous ma chemise jusqu'à se mettre à l'intérieur de mon caleçon pour prendre mon sexe dans ses mains. Et puis après, il se frottait et il fallait aussi le caresser, en tout cas poser sa main sur son sexe. Ça s'est reproduit de très très nombreuses fois jusqu'à un fameux camp du Portugal où là, il a essayé d'aller plus loin puisqu'il m'a enfermé dans une tente en profitant qu'il y avait un tournoi de foot pour essayer de me déshabiller et lui se déshabiller. Et donc là, j'ai eu très très peur et j'ai fui. Je venais d'avoir 12 ans et j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus du tout retourner au scout.
Alexandre arrête donc les scouts, ses parents ne cherchent pas à en savoir plus. Et ensuite, Laetitia, qu'est-ce qui se passe?
Et bien ensuite, plus rien, personne ne parle. Alexandre grandit, fait de brillantes études, fonde une famille, travaille dans la finance. Il se marie à l'église, a 5 enfants qu'il scolarise dans l'enseignement catholique. Et à l'époque, eh bien, il pense que le père Prénat est mort.
Mais tout va ressurgir en 2014.
Ah oui, c'est là qu'il découvre que le prêtre est bien vivant et qu'il fait le catéchisme à des enfants. Là, le sang d'Alexandre ne fait qu'un tour, sans hésiter. Il alerte le cardinal Barbarin par mail, lui raconte en détail ce qu'il a subi et lui demande d'agir au plus vite pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Et le cardinal lui répond aussitôt.
J'ai une réponse à la fois de son directeur de cabinet le jour même et du cardinal Barbarin le lendemain qui commence son mail par terrible témoignage et l'on comprend qu'il ait fallu autant de temps pour pouvoir le mettre par écrit et il me propose de contacter une dame qui s'appelle Régine Mère. Je rencontre cette personne qui me dit encore une fois que c'est terrible, beaucoup de compassion, c'est vraiment affreux ce qui a pu m'arriver. Et donc Régine Mère m'explique avec beaucoup de gentillesse qu'elle me propose une rencontre avec le père Prénat pour une démarche de guérison et de pardon. Quelque chose d'important, c'est que Régine Mère me dit qu'elle l'avait déjà fait avec d'autres prêtres, quand il avait eu notamment certaines histoires de violences sexuelles avec d'autres prêtres.
Alors cette Régine Mère dont nous parle Alexandre, quel rôle elle joue précisément dans le diocèse de Lyon?
Bien, Régine Mère est à l'époque la pièce centrale du dispositif du cardinal. Elle est membre du conseil épiscopal de Lyon et surtout, elle est chargée de recevoir les victimes de pédophilie à titre totalement officieux.
Et donc Alexandre accepte finalement de rencontrer son agresseur, le père Prénat, alors que Régine Mère assiste à cette séance dite de guérison et de réconciliation.
Eh oui, et cette singulière rencontre a lieu en octobre 2014. Alexandre Dussault, 30 ans après avoir été violenté, se retrouve face à son agresseur.
Et là, c'est une révélation pour moi parce que je lui expose effectivement ce qu'il m'avait fait. Il me dit oui, oui, bien sûr. Enfin, ça s'est passé. Et je comprends dans ce qu'il dit que j'étais pas un cas isolé et qu'en fait, pendant 15 à 20 ans, effectivement, il avait agressé sexuellement des enfants. Il le reconnaît devant moi et Régine Mère qui écoute sans rien dire. Ce prêtre est auto-centré sur lui-même. Il me raconte son histoire. Il me parle pas véritablement de moi. Il me demande pas pardon et aucun pardon. Il me parlait du nombre dans sa vie et qu'il avait été arrêté en 91, et c'est pour ça qu'il avait arrêté les scouts, pour être déplacé, pas en pénitence, mais en tout cas c'était pour essayer de recommencer avec une certaine virginité. La rencontre se termine, on se lève et Régine Mère nous propose main dans la main de réciter un « Je vous salue Marie » et un autre père.
Un « Je vous salue Marie » et un autre père. Là, quand même, on reste assez scotché. Laetitia, qu'est-ce qui va arriver ensuite?
Alors, d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, hein, Alexandre est totalement sous le choc. Et il l'est encore plus quand, 48 heures après cette rencontre, il reçoit ce mail de Régine Mère, extrait lu par Élodie Guéguin.
J'espère que cette rencontre a eu pour vous un goût de paix et de guérison d'un passé douloureux qui laissera toujours une cicatrice, certes, mais qui, avec la grâce, se ferme si nous ne la grattons pas trop.
En clair, le diocèse invite Alexandre à ne pas aller plus loin.
Oui, c'est en tout cas comme cela qu'il reçoit ce message. Cela dit, il n'en reste pas là, car Alexandre a une hantise, que le père Prénat demeure au contact régulier d'enfants. Il veut donc avoir la certitude que ce prêtre sera mis à l'écart.
Et c'est pour cela qu'il demande audience au cardinal Barbarin lui-même.
Oui, et il finit par obtenir un rendez-vous 2 mois plus tard.
On se rencontre et là, je lui redonne mon témoignage, je lui réexplique et je lui dis voilà, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, je vais agir de toute façon. Il me parle même du courage des cardinaux.
Donc ça, le 23 novembre, le cardinal Barbarin vous dit, je vais agir, et ça veut dire donc
Ça veut dire qu'il va le sortir des enfants et que vraiment, il a compris. Et il me dit quand même qu'à l'époque, il apprend le passé du père Prénat, c'est-à-dire qu'il
vous dit qu'il n'était pas au courant.
Il me dit qu'il n'était pas au courant, donc je le crois en lui disant, maintenant que je l'ai vu, je me dis, je vais voir mon épouse et mes enfants, les gens qui connaissaient le père Prénat et qui se sentaient trahis et qui avaient plutôt peur, voilà, il prend les choses en main, il ne fera plus la rentrée, Noël va passer et il va être retiré des enfants.
Alexandre est donc soulagé, il a le sentiment d'avoir accompli sa mission.
Sauf que Laetitia, ça ne va pas du tout se passer comme il l'espérait.
Non, Noël passe, puis février, et puis rien du tout. Le père Prénat demeure en poste, alors Alexandre insiste, menace de saisir le Vatican et la justice. Le cardinal finit par lui envoyer un mail le 2 mars 2015, mail lu par Benoît Colombat.
Au récent consistoire, nous avons eu un exposé très fort du cardinal O'Malley de Boston. C'est lui que le pape a chargé du dossier de la pédophilie. La ligne est claire. Donc, je prends ici les mesures qui nous sont suggérées. Je vous tiendrai au courant.
15 jours plus tard, le cardinal Barbarin envoie un nouveau message à Alexandre.
Comme je vous l'avais annoncé, j'ai appelé le père Prénat. Il est venu me voir et je lui ai dit que je lui ai retiré la charge de sa paroisse et que je ne lui en donnerai plus d'autres.
À cette époque, Laetitia Saavedra, on comprend donc qu'Alexandre a gagné son combat.
Enfin, gagné, c'est vite dit, hein, car un mois se passe et le père Prénat, ça semble incroyable, est toujours dans son diocèse. Cette fois-ci, Alexandre en a carrément assez. Il met donc ses menaces à exécution. Il écrit au pape et porte plainte en juin 2015 contre le cardinal pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs et pour mise en danger de la vie d'autrui.
Et c'est donc finalement en juillet 2015, hein, c'est-à-dire un an après qu'Alexandre se soit manifesté pour la première fois, que le cardinal semble réellement agir.
Ah oui, Monseigneur Barbarin appelle Alexandre. Il lui laisse un message sur son répondeur téléphonique. Le cardinal, sur un ton assez désinvolte, hein, vous allez l'entendre, fait référence à des consignes qu'il a reçues de Rome suite au courrier qu'Alexandre avait fait parvenir au pape.
C'est un message pour Alexandre de la part de Philippe Barbarin. J'ai reçu une lettre de Rome qui m'ont donné votre lettre ou la copie de la lettre que vous avez écrite au pape en me demandant de reprendre contact avec vous. Alors j'ai dit que j'étais en contact avec vous et de vous faire savoir exactement ce que j'avais fait à propos du père Bernard Prénat. Donc je vous le dis comme ça, là, voilà. J'ai interdit au père Bernard Prénat tout exercice du ministère pastoral et toute activité comportant des contacts avec des mineurs. Voilà. Jusqu'à ce que Rome statue sur sa situation. Voilà. Donc, à votre disposition si besoin.
Alors, on comprend bien dans ce message que nous a autorisé Alexandre à diffuser que le cardinal Barbarin agit, mais qu'il agit à la demande expresse de Rome.
Et en septembre 2015, le père Prénat sera finalement suspendu de ses fonctions. Voilà pour le récit chronologique de cette affaire. Alors ce qu'il y a d'intéressant, hein, Laetitia Saavedra, et c'est sur quoi on va s'arrêter maintenant, c'est le dispositif mis en place à Lyon pour tout à la fois entendre les victimes, mais en même temps essayer de bloquer d'éventuelles répercussions.
Ah oui, hein, et Alexandre a vraiment l'impression d'avoir été pris dans un système très bien huilé, un dispositif très bien organisé dont le but était de l'écouter pour peut-être mieux le décourager.
J'ai eu l'impression d'être entré dans un process à chaque rencontre. C'est-à-dire qu'après l'alerte par écrit, vous avez une lettre avec beaucoup de compassion du cardinal qui vous dit « c'est terrible, terrible témoignage ». Ça doit suffire. Mais si la victime insiste, effectivement, elle peut rencontrer une personne potentiellement psychologue, très, encore une fois, pleine de compassion et de gentillesse. Si la personne insiste, comme je l'ai fait, on peut avoir une demande directe de pardon du prêtre incriminé dans une réunion intimiste qui se termine par une prière. Donc ça doit suffire. Et finalement, jusqu'à mon dépôt de plainte et ma lettre auprès de Rome, rien ne s'est absolument passé par rapport au prêtre. À chaque fois, j'ai dû insister pour essayer d'avoir des réponses.
Alors, dans votre enquête, hein, Laetitia, vous avez également rencontré une jeune femme qui est, il faut le préciser, la compagne d'une autre victime, hein, du père Prénat, mais qui surtout est psychologue et victimologue.
Oui, elle s'appelle Dominique Murillo. Elle est chargée de la prise en charge des victimes de viols et de violences conjugales, de leur écoute et de leur accompagnement en milieu hospitalier. Et quand elle a pris connaissance de ces séances de pardon et de réconciliation organisées par le diocèse de Lyon, elle a tout simplement eu du mal à y croire.
Moi, le fait qu'on mette comme ça en contact une victime et son agresseur et qu'on les fasse prier main dans la main, je trouve ça d'une extrême violence. Si je rencontre quelqu'un, Régine Mère, qui me fait prier main dans la main avec mon agresseur, qui va éventuellement me demander pardon ou pas, comment voulez-vous que je trouve l'énergie, les ressources pour pouvoir aller porter plainte ? Ça me semble extrêmement compliqué.
C'est une façon détournée d'étouffer la parole de la victime,
je pense.
Étouffer la parole de la victime. Et ce qu'il y a d'important, hein, Laetitia Saavedra, c'est que cette Régine Mère n'a pas rencontré que Alexandre Dussault dans cette affaire.
Non, elle a aussi accompagné Bertrand Virieux, agressé lui aussi par le père Prénat quand il était jeune scout. Bertrand Virieux garde d'ailleurs un souvenir assez désagréable de son entretien avec elle.
Le 30 décembre, chez elle, je me suis présenté et donc j'ai eu un entretien d'une demi-heure avec elle où elle m'a montré de la compassion, clairement, de la compréhension aussi. Mais cet entretien n'a pas mené à grand-chose parce qu'elle est restée figée sur le fait que ça appartienne à une époque, à une mentalité. Vraiment, j'avais l'impression de ne pas être pris au sérieux et d'avoir été anesthésié, tout simplement. C'est l'impression que j'ai eue, c'est-à-dire qu'il fallait éteindre le feu.
Anesthésié, le mot est fort. Alors bien sûr, hein, vous avez tenté de joindre et le cardinal Barbarin et sa collaboratrice, hein, Régine Mère.
Oui, et le cardinal a décliné notre proposition d'interview. Quant à Madame Mère, elle a également refusé. Cela dit, il y a quelques semaines, elle s'était exprimée brièvement au micro de Thibault Lefèvre de France Inter. Elle justifiait alors son attitude. Elle venait d'être visée, comme le cardinal, par une plainte pour non-dénonciation.
Moi, je me suis située plus en situation d'écoute et d'accueil que en situation judiciaire, quoi. Peut-être à tort, mais aujourd'hui, quand je relis mon comportement, c'était de ce type-là.
Mais vous êtes mise en cause pour avoir su sans avoir dénoncé.
On va voir, hein. Moi j'attends que la plainte sorte, et puis voilà, moi j'assumerai s'il faut assumer. Hein.
En même temps, n'importe qui entend parler de ce type de cas a comme réflexe d'aller devant la police, devant la justice. Mmh. Vous, non ?
Sans doute. Moi, je suis psycho de formation, hein. Je ne suis pas dans une posture judiciaire, quoi.
On vient donc de voir comment le diocèse de Lyon a tenté d'étouffer un scandale de pédophilie. Mais cette semaine, Laetitia, vous nous avez révélé sur France Inter comment les jésuites, à leur tour, ont été eux aussi rattrapés par des accusations semblables.
Oui, des accusations de la part d'anciens élèves de Franklin, la prestigieuse école Saint-Louis de Gonzague à Paris, là où sont passés entre autres Bruno Le Maire, Luc Chatel ou Jean-Louis Servan-Schreiber. Les faits remontent aux années 50, le père incriminé est mort depuis, mais il pourrait y avoir plusieurs dizaines de victimes. Et c'est un peu la même histoire qu'à Lyon, une victime qui se bat contre le mur du silence, cette fois celui des jésuites.
Et cette victime, Laetitia Saavedra, vous avez pu la rencontrer.
Oui, il s'appelle Jean-Pierre Martin Vallas, il a 70 ans aujourd'hui. Il en avait 8 en 1953, quand il était en primaire, donc à Saint-Louis de Gonzague, une école de garçons, lors d'une colonie de vacances organisée par l'établissement. Le père, l'un des responsables jésuites, s'est livré à des attouchements sur lui.
Je devais avoir 8 ans, j'étais en colonie de vacances, et une nuit, on dormait dans un dortoir, et j'ai vu passer en pyjama qui faisait sa tournée de contrôle. Je devais être à peu près le seul à être éveillé. Et quand il est passé devant moi, il est rentré dans mon lit. Il a commencé à me caresser le torse en passant ses mains sous ma veste de pyjama. Et à un moment, il a passé sa main à l'intérieur de ma culotte de pyjama sur les fesses. Et à ce moment-là, j'ai réagi, mais je dirais instinctivement. J'ai dû faire un mouvement assez violent et il est sorti du lit et j'en ai plus entendu parler.
Alors ce n'est qu'à 65 ans que Jean-Pierre Martin Vallas décide de sortir du silence. Il a attendu la mort de ses parents qui appréciaient le père pensant qu'il ne l'aurait pas cru. En 2010, il contacte 1000 anciens élèves et reçoit 10 témoignages. Certains sont édifiants, comme celui de Pierre Guy.
Ouais, le père en question était un ancien cheminot et il avait même une particularité, c'est que dans son bureau, là il avait un très grand espace où il avait installé aussi un train électrique. Et c'était un énorme espace. Moi je n'ai jamais vu, j'ai jamais eu le droit, parce que pour pénétrer dans les lieux, il fallait être, comment dirais-je ? Ouais, il fallait être initié, il fallait être accueilli et c'était donné à juste un tout petit groupe, une élite de garçons qui étaient parmi nous. On ne savait pas sur quels critères ils étaient choisis, mais ils étaient les rares à pouvoir assister, peut-être participer au jeu du train électrique. Entre nous, on se disait, mais qu'est-ce qui s'y passe ? Il y avait un grand mystère, un grand tabou et puis une rumeur. C'est des années après que j'ai compris que le père en question aimait bien les petits garçons et que il se passait sûrement des relations beaucoup plus intimes.
Autre témoignage que vous avez recueilli, Laetitia, celui assez terrifiant de cet ancien élève qui, lui, souhaite rester anonyme.
Ah oui, un monsieur de 60 ans qui se rappelle ce qui se déroulait pendant que le père, le confessait.
C'était à l'issue de la confession. Quand vous êtes un petit enfant, que vous allez vous confesser vos petits péchés d'avoir menti à maman, d'avoir piqué des bonbons, et qu'à l'issue de cette confession, après avoir reçu l'absolution, on vous embrasse sur la bouche en vous glissant la langue dans la bouche de la part d'un homme d'un certain âge, c'est vraiment quelque chose de choquant. Donc j'ai dû avoir un geste de recul et le père a marqué un profond atterrement. On voyait bien qu'il était conscient de ce qu'il avait fait et que ce qu'il avait fait était affreux.
Une partie de ces témoignages, Jean-Pierre Martin Vallas les transmet au père supérieur jésuite de l'établissement en 2010 et il réclame une enquête interne. L'affaire remonte jusqu'au provincial, c'est-à-dire jusqu'au responsable des jésuites de France, qui adresse alors à Jean-Pierre Martin Vallas une fin de non-recevoir.
Le provincial a répondu : j'estime que 40 ans après ces faits, ces enfants doivent avoir trouvé un équilibre de vie satisfaisant, qu'il n'y a pas lieu de les perturber. De plus, ce prêtre étant mort, il n'y a aucun intérêt à faire une enquête.
Et comme dans l'affaire de Lyon, Laetitia, cette victime a été obligée d'en appeler au pape pour que les choses bougent enfin.
Oui, le pape François, un jésuite qui prône la tolérance zéro en matière de pédophilie. Résultat, un groupe d'accueil est créé en 2014, mais selon Jean-Pierre Martin Vallas, il n'a jamais vraiment fonctionné.
C'est un groupe qui est chargé d'inviter les victimes qui se sont plaintes à prendre du thé avec les jésuites, à écouter des paroles mielleuses et onctueuses et à repartir ayant refermé la boîte de Pandore avec destination de ne plus jamais en parler.
Là encore, un essai vraiment troublant. On a l'impression qu'à Lyon ou que chez les jésuites, c'est la même stratégie de l'étouffement qui est déployée.
Ah oui, exactement. Hein. Mais tout change quand on révèle l'histoire au grand jour. Ce que nous avons fait mardi dernier sur France Inter. Quelques heures plus tard, en urgence, les jésuites de France organisent une conférence de presse. Leur responsable, le père Grenet, commence par confirmer la gravité des faits.
Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, ce sont bien des faits qui ont été commis par un jésuite et révélés par M. Martin Vallas, alors qu'il avait lui-même 8 ans, des attouchements sexuels, et des faits dont les contacts opérés par M. Martin Vallas ont révélé qu'il y avait eu d'autres victimes. Ces événements qui sont sortis dans la presse ce matin sont graves. Et je peux commencer par exprimer d'abord les regrets profonds de la compagnie pour tout acte de pédophilie, d'abus sexuels, d'abus sur les personnes qui ont pu se présenter de la part d'un jésuite ou au sein d'une institution dont nous avons la responsabilité.
Et puis, après cette première déclaration à Laetitia, les journalistes interpellent ensuite le père Grenet sur l'absence d'enquête interne menée au sein des jésuites.
Ah oui, et là Mathieu, eh bien, le provincial des jésuites fait son mea culpa.
Je regrette ce choix qui pour moi a été le fruit d'un malaise devant l'ancienneté des faits et le décès de l'auteur, je prends davantage conscience qu'une invitation claire de ma part pourrait aider des victimes à accéder à la parole. Et que cela, je ne l'ai pas fait. Je suis resté plutôt dans une attitude d'attente. Pour l'instant, je ne souhaite pas du tout mettre un couvercle ou étouffer.
Un mea culpa, hein, donc, il n'empêche, le temps de réaction de ces jésuites aura été pour le moins long, très long. Est-ce que l'Église a des procédures clairement établies pour sanctionner les prêtres pédophiles, Laetitia Saavedra ?
Eh bien, pour le savoir, je suis allée rencontrer le père de Bocard, le responsable du tribunal ecclésiastique de Lyon qui rend la justice de Dieu. Écoutez sa réponse, elle traduit une forme d'ambiguïté quand même.
Quand c'est des cas de pédophilie lourds, voilà, c'est en général la perte de l'état clérical. Mais si c'est une relation ambiguë qui n'est pas allée jusqu'à un acte sexuel qui a gêné les personnes, ça peut être tout simplement d'aller 6 mois dans un monastère, réfléchir au mal qu'il a pu faire. Ça peut être la restriction de l'exercice du ministère. Si c'est un prêtre qui a eu des difficultés avec des jeunes, même s'il n'y a jamais eu de passage à l'acte, même s'il n'y a jamais eu d'acte délictueux comme tel, mais une attitude ambiguë qui a pu gêner des personnes, son ministère peut être restreint à ne plus du tout s'occuper de jeunes.
À vie.
Alors, pendant une période déterminée, et puis après on refait le point.
On refait le point. Cette déclaration fait un petit peu froid dans le dos quand même. Hein.
Ben, c'est un peu comme si certains responsables religieux n'avaient pas encore pris conscience de la gravité de la pédophilie. Même sentiment d'ailleurs à l'écoute de cet extrait d'une interview radio de Mgr Lalanne, chargé justement du traitement de la pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France. Et ce qu'il dit au micro de RCF, la radio chrétienne francophone de Lyon, c'est simplement stupéfiant.
La pédophilie est un mal. Est-ce que c'est de l'ordre du péché? Ça, je ne saurais pas dire. Puis c'est différent pour chaque personne. Mais c'est un mal. Et la première chose à faire, c'est de protéger les victimes ou les éventuelles victimes. Voilà ce que je souhaite dire pour répondre plus concrètement à la question que vous me posez. C'est un mal profond. De fait, les choses sont très très claires. Est-ce que c'est péché ou pas? Je ne sais pas. Ça peut être différent suivant chacun, donc on ne peut pas généraliser. Mais c'est un mal profond.
Alors ces propos hein, qui ne cessent d'étonner, il y a un responsable religieux qui lui n'est pas du tout surpris. Hein.
Il s'appelle Christian Delorme, c'est lui qu'à une époque on a surnommé le curé des Minguettes, c'est un prêtre progressiste qui ne mâche pas ses mots.
On va être d'une certaine manière impitoyable pour les divorcés remariés, pour les couples homosexuels, mais lorsqu'il s'agit d'un prêtre qui a commis des agressions sexuelles et des crimes graves lorsqu'il s'agit d'enfants, eh bien on est beaucoup plus finalement indulgent. Et ça ne va pas. Il y a quelque chose, je pense, là, qui est vraiment à revoir dans l'Église. Pour moi, c'est le signe que l'Église vit encore un peu dans un monde à part, qu'elle n'est plus en prise directe avec la société, qu'elle ne ressent pas ce que la société ressent profondément.
Alors, autre explication possible à l'aveuglement de l'Église de France face à la pédophilie, une raison cette fois beaucoup plus terre-à-terre que nous dévoile Philippe Clancher, journaliste spécialiste des religions.
La priorité aujourd'hui de l'Église catholique, c'est d'essayer de mettre des prêtres partout où elle a l'habitude d'en mettre. Historiquement, il faut voir qu'il y a eu un gros problème de réaction de l'institution par rapport à la pédophilie sous le pontificat de Jean-Paul II, qui a très mal géré ce cas-là. Et il y a un exemple symptomatique, c'est qu'il y avait un prêtre mexicain dont tout le monde disait et tout le monde savait que c'était un pervers qui a fait des violences sexuelles sur ses enfants. Et on le disait à Jean-Paul II, Jean-Paul II ne voulait pas l'entendre. Pourquoi ? Parce que ce prêtre rapportait énormément de prêtres dans la compagnie qu'il avait formée. Donc la priorité pour le pape Jean-Paul II, qui n'était pas du tout complaisant à faire la pédophilie, la seule chose qu'il voyait, c'était voilà des prêtres qui arrivent pour remplir mon église. Et je crois que ça reste encore plus ou moins consciemment chez les évêques, c'est-à-dire qu'il nous faut des prêtres, et alors tant pis si on prend des gens qui potentiellement peuvent être dangereux, qui potentiellement ont des problèmes affectifs, on va prendre des prêtres parce qu'il faut absolument des prêtres.
Quand on entend cet argument, on a presque du mal à y croire.
Il s'agit pourtant d'une réalité. Les prêtres sont de plus en plus vieux et de moins en moins nombreux. Et d'ailleurs, un évêque cette semaine a reconnu que cette raison l'avait conduit à hésiter, à écarter un père de son diocèse. Cet évêque, c'est Monseigneur Blacard, l'évêque d'Orléans.
J'ai sous-estimé les risques potentiels liés à cette affectation, même si par exemple les catéchistes trouvaient qu'il était trop distant avec les enfants, mais je crois que j'ai sous-estimé les risques à ce moment-là. Je voyais sans doute les besoins de la communauté chrétienne qui avait besoin d'un prêtre, et c'est vrai que peut-être dans une certaine naïveté, en laissant ce prêtre en place, je voyais surtout ce qui allait se passer de bon pour la paroisse, et je voyais pas les risques qui pouvaient se manifester. Aujourd'hui, ma décision, c'est aussi, derrière la décision prise, c'est que prendre toute mesure pour que ces choses-là ne se reproduisent pas.
Prendre toutes les mesures, c'est bien ce à quoi s'est engagée la Conférence des évêques de France il y a quelques jours. Elle mettra en place dans chaque diocèse une cellule d'écoute pour recueillir la parole des victimes.
Merci beaucoup Laetitia Saavedra pour votre enquête qui est à retrouver sur notre site internet franceinter.fr et sur la page Facebook de Secrets d'Info. On vous précise que même si le cardinal Barbarin n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, il soutient qu'il n'a en rien voulu étouffer le scandale. Il précise aussi qu'il a saisi en décembre 2014 le Vatican du cas du père Prénat et qu'en février 2015, le Vatican lui a demandé de suspendre le prêtre à compter de septembre 2015. Voilà pour le détail.